mode d'emploi.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Bienvenue dans l'émission Mode d'emploi avec l'équipe de la quatrième dimension. Claude aux manettes, Corentin et Laurent au micro, Jean-Max et Damien dans le studio.
Comme chaque quatrième vendredi du mois, l'équipe de la quatrième dimension vous reçoit le casque vissé sur la tête. Mais ce soir, cette circonstance, car nous allons parler bicyclette, vélo, petite reine et big clown. On ne va pas parler de la saison hivernale de cyclocross ou des perspectives de Chris Froome pour 2019, non. On ne va pas non plus débattre pour savoir si un Français regagnera un jour le Tour de France, mais encore mieux, on va s'intéresser aux politiques publiques en matière de vélo.
Et oui, en septembre, quand on a défini le programme de l'année, on n'avait pas forcément idée qu'au mois de novembre, on serait en pleine crise liée au coût des transports. Mais depuis, le pétrole a fait des montagnes russes. Et depuis plus d'un mois, une fronde s'organise avec comme prétexte une hausse des prix des carburants. Et c'est ça la goutte d'huile qui fait déborder le carburateur fiscal. Le vélo serait-il une solution pour répondre à ce mouvement? Les maillots jaunes seraient-ils une réponse pour les gilets jaunes?
Nos deux invités qui en connaissent un rayon vont se passer le relais pour nous parler du plan vélo. Est-ce que ce plan est bidon? Est-ce une simple rustine sur une politique de mobilité bancale? Va-t-il nous permettre de passer du volant au guidon, ou bien est-ce qu'il répond à ce qu'attendaient les acteurs du vélo? Pour en parler, nous recevons donc Charles Magnin, président de Paris Ancel et administrateur de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, et Julien Langer, urbaniste, cofondateur de Véloptimo et de Urbanisme et Services, USE, et observateur avisé des politiques publiques de mobilité. Alors, maillot jaune ou gilet jaune, c'est parti pour une heure d'antenne. Vous pourrez réécouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin sur RFPP ou la podcaster comme toutes les précédentes sur le site internet de Mode d'emploi www.mode-d-emploi.net. Et alors si vous voulez nous appeler et poser des questions à nos invités ou réagir, vous avez juste à faire le 01 40 05 06 10 01 40 05 06 10. C'est parti.
On aime bien commencer par vous laisser la parole à vous, nos invités de ce soir, pour vous présenter rapidement vos associations ou vos activités. Et puisqu'on parle du vélo aussi, comment vous êtes tombé dans le vélo? Est-ce une passion? Est-ce que vous en faites? Je vais laisser la parole à Julien pour commencer.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, j'ai commencé le vélo à l'âge où on apprend à faire du vélo, donc assez petit. Je me souviens de ma première gamelle. Je pense que c'est celle qui marque l'entrée en matière. La première fois marque toujours, et puis la première fois où finalement on tient sur le vélo, donc ça marque à vie. Et puis j'ai fait pas mal de vélo étant petit dans les côtes, dans les Cévennes, sur les causses des Cévennes. Et j'ai repris le vélo à Paris en 98, quelques temps après les grandes grèves. J'ai acheté un vélo à Paris. J'étais à Paris depuis peu de temps. Ça fait 20 ans que je fais du vélo à Paris, donc du vélo urbain, mais je fais aussi du vélo de randonnée. Donc je suis un cycliste pratiquant, régulier et intensif.
Et toi, Charles? Alors Charles Magnin, j'ai fait une coquille.
Il n'y a pas de souci. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, moi je suis président et fondateur de l'association Paris Ancel. C'est une association en fait qui, sur Paris et sa métropole, essaye de faire en sorte que les conditions de circulation à vélo s'améliorent, qu'il y ait des politiques publiques en faveur du vélo, de sorte que cette solution de mobilité, qui pour nous nous semble une solution assez extraordinaire de plein de points de vue, on en aura l'occasion d'en reparler, devienne accessible à plus de monde pour plus de trajets. Donc voilà, c'est vraiment une association qui veut mettre le vélo dans le débat public parisien. Par ailleurs, je suis membre du conseil d'administration de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette, qui est donc la structure au niveau national qui porte également ce même combat. Quand est-ce que je suis tombé dans le vélo? Eh bien, en fait, comme tout le monde, j'ai fait des balades à vélo le dimanche. Mais en fait, quand j'ai essayé de réfléchir au point de départ, je le place beaucoup plus tard, quand j'étais étudiant en Australie. Et en fait, à cette époque-là, j'avais peu d'argent, soyons clairs. Et je cherchais le moyen de me déplacer en faisant des économies. Et il se trouve que là-bas, il y avait une piste cyclable très confortable le long de la rivière qui allait du centre-ville jusqu'à mon campus. Et par ailleurs, comme il y avait un système de transport qui faisait qu'on payait à chaque fois qu'on utilisait les transports, j'avais le sentiment que j'allais faire une économie à chaque fois que je prendrais le vélo, mais que je pouvais quand même accéder aux transports en commun, ce qui est une petite différence avec la situation du Navigo à Paris. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du vélo, après avoir une voiture quand j'étais en fin de premières années d'études. Donc c'est pas quelque chose d'inné pour moi de me déplacer à vélo, je suis un converti.
D'accord, bah très bien, merci pour cette entrée en matière et ce retour d'expérience personnelle. Alors peut-être aussi donc pour placer le décor, c'est quoi la place du vélo aujourd'hui en France?
Alors en France, on est sur un usage qui a décru et continue presque aujourd'hui de décroître parce que ça se stabilise maintenant autour d'une part modale. Donc part modale, c'est la part des déplacements qui sont faits à vélo parmi tous les déplacements que font les Français, autour de 2%. Donc c'est très bas. Et la France se place 25e sur 27 pays de l'Union européenne en matière de part modale du vélo. Donc
on justement, on pourrait définir part modale parce que je suis pas sûr que ça parle à l'ensemble.
Voilà, c'est vraiment part modale, c'est mettons que les Français fassent 100 déplacements dans une journée, il y en a 2 qui sont faits à vélo. 2% des déplacements, de l'ensemble des déplacements, y compris à pied, en bus, en métro, en voiture. Voilà, sur l'ensemble des déplacements que font les Français, actuellement, on est autour de 2% à vélo. Bien entendu, c'est pas pareil dans tous les territoires. On aura peut-être l'occasion d'en reparler.
En Ile-de-France, c'est quoi?
En Ile-de-France, on est un tout petit peu plus, 2,5-3. Et à Paris, c'était 4% la dernière fois que l'INSEE a fait des statistiques en 2016.
D'accord.
Et du coup, quelle est l'évolution du vélo ces dernières années, Julien?
En tout cas, on peut dire que par rapport à cette moyenne nationale, on a quand même des disparités régionales et locales. Donc il y a un certain nombre de villes qui ont démarré des politiques cyclables il y a un peu plus de 20 ans maintenant. La ville de Nantes, Grenoble, Strasbourg également. On verra que Strasbourg a un cas un petit peu spécifique qui a peut-être des dimensions aussi culturelles à travers ça. Mais finalement, des villes qui sont pas forcément favorables plus que les autres à la pratique du vélo, puisque les freins que l'on oppose souvent au vélo, moi j'ai travaillé beaucoup avec des élus locaux ou des dans des contextes locaux où on dit c'est parce que ici il pleut beaucoup plus qu'ailleurs, ou bien c'est parce que dans notre ville il y a beaucoup plus de pentes, beaucoup plus de topographie, donc on fait moins de vélo, etc. Tous les prétextes sont bons un petit peu pour justifier cette part modale faible, mais il se trouve que les villes et les métropoles, les agglomérations qui ont fait des politiques cyclables et qui sont déjà anciennes, qui permettent d'avoir un retour d'expérience, ont quand même augmenté leur part modale. Donc à Strasbourg, on est à 17% de part modale, à Nantes, on a dépassé les 10%, etc. Donc Paris fait par exemple figure de ville un peu intermédiaire qui a démarré, mais qui est quand même loin de ce qu'elle est capable de faire en termes d'incitation et de changement de pratique.
Charles, tu voulais réagir?
Oui, tu as parlé de culture, je serais curieux de savoir pourquoi tu parles de culture, pourquoi la culture jouerait un rôle là-dedans.
Alors oui, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, je pense à Strasbourg, parce que souvent on avance le fait que ça pourrait être culturel, parce que les Strasbourgeois auraient une proximité avec la culture rhénane et allemande, et qu'en Allemagne on fait davantage de vélo comme dans les pays du Nord. J'ai eu les mêmes réflexions quand j'ai travaillé pour des aménageurs à Genève, qui m'ont dit dans les autres villes suisses on fait plus de vélo et à Genève on fait moins de vélo parce qu'on est un peu plus français. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose en tout cas à déboîter en fait dans l'idée que les Français sont mauvais en anglais et sont mauvais sur un vélo, qu'ils seraient pas culturellement ou essentiellement capable de reprendre le vélo, et il faut évidemment s'enlever cette idée de la tête.
Oui, moi je pense que c'est pas du tout culturel, d'ailleurs quand on a fait avec la FUB le baromètre des villes cyclables, on s'aperçoit qu'on a des villes qui ont pris de l'avance, et donc effectivement on a toute une côte est, si je puis dire, Alsace, Strasbourg en tête, tout ce qui est autour de Lyon, Grenoble en particulier. Et puis bien sûr aussi toute la partie côte atlantique. Et là, je ne sais pas de quelle influence culturelle on pourrait se prévaloir. Nantes, Rennes, La Rochelle en tête du podium sur les villes entre 50 000 et 100 000 habitants. Donc en fait, c'est pas une question de culture, et c'est vraiment une question de politique publique. Et c'est ça qui est drôle, et que même dans des pays plus cyclables comme l'Allemagne, ils vont y invoquer la culture pour finalement excuser le fait qu'ils ont été paresseux dans l'urbanisme cyclable de leur ville.
Et est-ce qu'on, alors du coup, est-ce qu'on peut tous se déplacer en vélo ?
C'est un moyen de déplacement qui est extrêmement inclusif. Il faut savoir par exemple que pour les personnes âgées, qu'on nous objecte souvent qu'ils ne peuvent pas se déplacer à vélo, en fait, ce sont une part importante des gens qui se déplacent à vélo, et notamment parce que le vélo est quelque chose qui n'est pas traumatisant pour les articulations. Si vous demandez à votre médecin, quand vous avez des problèmes d'articulation, quel sport il va vous recommander, la natation et le vélo. Donc en fait, un déplacement à vélo, c'est une manière assez soft de faire un exercice physique non traumatisant. Les personnes handicapées peuvent retrouver de la mobilité grâce au vélo. C'est des travaux du centre d'études sur la mobilité et le handicap à Lyon qui montrent qu'on pourrait adapter ce que font d'autres pays, donc qui ont des vélos adaptés, des tricycles à assistance électrique, etc. Et puis bien sûr les enfants. Les enfants hollandais sont aussi les enfants les plus heureux du monde. Et principalement parce que ils peuvent se déplacer à vélo sans l'aide de leurs parents, vu que l'écosystème du vélo est très sécurisant, ils ont de l'autonomie. En France, on n'autorise plus les enfants à sortir traverser la rue, c'est trop dangereux, dit-on. Là-bas, les enfants sont autonomes, libres, et c'est là qu'ils gagnent en maturité.
Julien, un rebondissement sur cette place du vélo dans la ville.
Oui, je voulais rebondir pour une expérience que j'ai eue en famille, puisqu'on a vécu un an à Berlin, et mes enfants qui ont 8 et 12 ans se sont véritablement découverts une passion pour le vélo urbain à Berlin, compte tenu de la, disons, de l'espace, hein, des possibilités qu'offre la ville en termes d'espace public, en termes de pistes cyclables, même s'il faut savoir que les Berlinois se plaignent énormément de l'absence de politique cyclable digne de ce nom à Berlin. J'avais l'impression parfois qu'on me parlait de Paris, en fait, alors que nous, on vivait une véritable idylle avec la ville en termes de vélo. Et depuis qu'on est rentré à Paris, mon fils de 8 ans, avec qui j'ai fait un trajet d'un quart d'heure à Paris, m'a dit « Papa, j'ai peur. Papa, j'ai peur à Paris, je ne sais pas comment continuer à faire du vélo à Paris parce que je suis terrorisé. »
Nous, dans notre association, on voit les Strasbourgeois et les Grenoblois débouler. Ils arrivent à Paris et ils comprennent pas ce qui se passe. Ils ont fait du vélo dans leur ville de manière évidente. Ils arrivent à Paris et ils prennent leur adhésion immédiatement à Paris en selle parce qu'ils disent « c'est pas possible, il faut changer ça ».
Et ça, c'est un des principaux freins, la peur, justement.
Le principal. Dans le cadre
c'est quoi,
de cette
freins,
dans le cadre de cette grande enquête nationale qui on a appelée Parlons Vélo, donc c'était le baromètre des villes cyclables, on a demandé il y a 113 000 personnes qui se sont exprimées pour nous dire c'était quoi leurs priorités en matière de vélo, et le ressenti principal des gens qui ne sont pas encore à vélo, tout comme ceux qui commencent à faire du vélo, c'est je ne me sens pas en sécurité, j'aimerais être séparé du trafic motorisé. Il y a 85% des répondants, des 113 000 répondants, qui nous ont dit qu'aujourd'hui, leur ville ne permet pas aux seniors et aux enfants de se déplacer à vélo en sécurité. Donc, il y a un vrai problème de ressenti d'insécurité à vélo. Et dès qu'on crée les conditions d'une ville qui est plus accueillante à vélo, eh ben, hop, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. C'est le principal frein. On peut dire que le deuxième, dans la pyramide de Maslow du cycliste, hein, la pyramide des besoins élémentaires, c'est sans doute le fait de pouvoir stationner son vélo sans se le faire tirer, quoi.
Oui, je voulais rebondir là-dessus, puisque je me suis insuffisamment présenté, puisque j'ai présenté ma venue au vélo, mais pas mon activité. Donc,
c'est le moment.
Voilà, Véloptimo, c'est un concept qu'on a créé il y a un petit peu moins de 2 ans et qui vise à résoudre, si possible, cette difficulté du stationnement du vélo et notamment du désordre ou de la négligence constatée aujourd'hui sur les locaux à vélo à Paris, mais aussi dans à peu près tous les immeubles collectifs. C'est un peu le parent pauvre des parties communes des immeubles, soit parce qu'il est exigu, soit parce qu'il a déjà été transformé à moitié en local poubelle, ou quand il existe encore, il est effectivement plutôt source de désordre, voire de conflit entre les voisins, puisqu'il y a une majorité de vélos qui sont stockés dans ces locaux et qui se transforment progressivement et lentement en épaves. tandis que les quelques usagers qui restent motivés jouent un petit peu à Tetris tous les matins pour désencastrer leur vélo de ses locaux. Donc Véloptimo, c'est une solution de réaménagement et de design des locaux à vélo dans l'existant comme dans les programmes neufs. Par ailleurs de propositions de partage de vélos au sein des copropriétés. Donc voilà, c'est un service qui démarre, c'est une activité qui est en développement. Et puis je mets à profit aussi mon expérience d'urbaniste d'un peu plus de 20 ans où j'ai finalement un petit peu sillonné la France à travers des questions de politique urbaine et où finalement j'ai constaté au fil de ces années l'absence ou la désespérance autour du vélo, que ce soit des personnes qui croyaient au vélo et qui me disaient je ne vois pas comment on peut y arriver s'il n'y a pas de politique publique, et je vois pas et les élus qui effectivement invoquaient un certain nombre de difficultés un petit peu structurelles, et c'est à celles-là qu'il faut évidemment s'attaquer, tout comme celle de la négligence des espaces de sécurisation des vélos et de stationnement des vélos.
Très bien, ben merci pour cette première partie d'émission. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par l'équipe de la 4e dimension, une équipe qui ne pédale pas dans la semoule, et cette émission est consacrée au plan vélo. Ce soir, une alternative au tout voiture. Alors, on reçoit ce soir Charles Maguin, président de Paris Ancel, et Julien Langer, urbaniste et cofondateur de Véloptimo. Vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10 et après avoir dressé un peu le paysage, le panorama du vélo aujourd'hui, on va parler vraiment du plan vélo. Juste avant, pour vous dire que RFPP, c'est une radio, donc Paris Fréquence Paris Pluriel, une radio associative. On a besoin d'un peu d'argent puisque les soutiens publics se font de plus en plus rares. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site de rfpp.net et donner une petite obole.
Vous continuerez comme ça à nous écouter. On va donc effectivement enchaîner sur cette deuxième partie. Notre gouvernement a mis en place un plan vélo. Et je vais vous laisser la parole pour nous expliquer les principaux tenants et aboutissants de ce plan vélo. Je vois une main se lever.
Oui, je peux peut-être répondre là-dessus. Donc, avec la Fédération française des usagers de la bicyclette, on a beaucoup porté cette demande d'avoir enfin une politique vélo efficace en France. Donc, on a fait la contribution la plus importante, contribution citoyenne la plus importante des assises de la mobilité. C'était ce fameux baromètre des villes cyclables que j'ai mentionné, 113 000 réponses. Et du coup, ça a interpellé le gouvernement qui a pris les choses au sérieux, il faut le reconnaître, et a sorti un plan vélo qui, pour la première fois de l'histoire en France, est financé. Donc, il y a 350 millions d'euros qui sont prévus sur 7 ans pour financer des infrastructures cyclables, donc c'est-à-dire en gros des pistes cyclables, mais aussi des passerelles, globalement des solutions pour aider les collectivités à investir là où il y a des coupures, une rivière, une infrastructure de chemin de fer, une autoroute, un pont qui n'est pas accessible à vélo, du financement pour l'aider à le faire. Et c'est la première fois que l'Agence française de financement des infrastructures a un budget fléché vers le vélo. Et donc ça, c'est une grande nouvelle parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le principal frein, c'est le sentiment d'insécurité. Et la principale réponse à ce sentiment d'insécurité, c'est de proposer une vraie séparation physique des gens qui se déplacent à vélo par rapport aux véhicules motorisés. Donc ça, c'est la mesure phare. Après, il y en a d'autres. Je les fais rapidement. L'apprentissage du vélo à l'école pour tout le monde, donc le savoir rouler. Il va y avoir aussi le marquage systématique des vélos. Il y a eu un peu une polémique autour de l'idée d'une carte grise. C'est pas ça du tout, hein. L'idée, c'est de reprendre le système actuel de la FUB qui est basé sur le volontariat, le Bicycode, et de marquer les vélos pour que vous puissiez que votre vélo, on puisse vous le rendre si les forces de police les retrouvent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils en ont plein qui ne savent pas les restituer. C'est aussi une manière de mettre fin aux filières de recel. Voilà pour les mesures un petit peu phares de ce plan vélo. Il y en a encore quelques autres, notamment du stationnement vélo dans les gares.
Ces 350 millions, c'est représentatif, c'est suffisant. Sur des infrastructures de ce type-là, on a toujours du mal à voir des échelles. Oui, 350 millions comme ça, ça semble énorme. Est-ce que pour à la fois la ville et dans nos campagnes, c'est suffisant pour mettre de l'ordre dans tout ça?
Il y a eu des évaluations qui ont été faites par les acteurs les mieux à même de l'affaire, et qui, notamment la FUB et d'autres, qui ont noté que ce serait insuffisant par rapport aux besoins et au fait de devoir accélérer sur la mise en place de plans cyclables dans l'ensemble des villes de France. Néanmoins, il faut apporter deux éléments. La première, c'est évidemment que c'est quand même une nouveauté qu'il y a un plan fléché, c'est-à-dire que ce sont des financements qui sont ciblés, qui ne peuvent pas être dépensés sur autre chose que le vélo. La deuxième, c'est que l'État, en fait, espère un effet de levier en apportant son soutien et son financement. Vous savez que les politiques territoriales et d'urbanisme sont maintenant partenariales. Et donc, l'idée, c'est que les collectivités mettent également la région, les départements, les agglomérations, les métropoles, bien sûr, soient les principaux acteurs de la mise en œuvre de ces projets et de leur financement. Donc, l'État vient un petit peu en soutien, vient en accélération de ces projets.
Alors, puis, être clair pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'en mettant 350 millions, j'espère qu'il y a d'autres acteurs publics qui investissent également, donc avec 350 millions qu'on arrive peut-être à 1 milliard, parce que ça représente un tiers des... Ouais,
concrètement, vous proposez à une collectivité de financer la moitié de sa piste cyclable, et donc elle va avoir envie d'en profiter pour faire le reste. Donc elle va vous mettre un euro, elle va mettre le deuxième.
Mais je crois que pour aller un petit peu plus loin, on peut aussi réfléchir la chose en se disant que il s'agit de mettre à l'agenda des politiques urbaines, d'aménagement comme de déplacement, la systématicité en fait du réflexe vélo autour de tout aménagement. Hein, la question, c'est pas tellement de financer des choses fléchées sur le vélo. Ça, il y a des nécessités, réduire les coupures, etc. Il faut aussi que, au sein des services des villes, des services techniques, au sein des organismes de formation qui forment les futurs directeurs, directrices des grandes directions d'infrastructures, des directions des déplacements des villes, que le réflexe vélo soit pris par l'ensemble des acteurs de manière transversale. Et que ce réflexe vélo, je vais prendre juste un exemple, à Paris, demain, on fasse comme à Berlin, comme dans toute autre ville qui prend véritablement en compte les usagers de la bicyclette, que lorsqu'il y a un chantier qui déborde sur la voie publique et qui vient couper par nécessité pendant quelques mois une piste cyclable, cette piste cyclable soit déviée correctement et de manière sécurisée. Bien des fois à Paris ou dans d'autres villes de France, finalement, le chantier se déploie, la piste cyclable est coupée et personne ne s'est préoccupé de la dévier de façon sécurisée.
Effectivement, on a une problématique de la piste cyclable qui est souvent une voie de parking, une voie de débarras, de chantier. Ce matin, en allant au boulot, j'ai compté le nombre d'obstacles qu'il y avait sur ma piste cyclable. Dans une rue d'à peu près 200 mètres, il y avait 6 voitures et 2 piétons qui étaient qui était dessus. Et effectivement, c'est une problématique au quotidien d'éduquer la population à l'habitude d'avoir un vélo. Autant les voitures qui coupent nos chemins sans vraiment faire de contrôle que les piétons.
Charles, tu voulais compléter.
Oui, je pense que sur ce plan vélo, en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que il y a un peu un message qui est envoyé, et j'ai oublié une mesure importante, c'est que l'État montre l'exemple aussi dans ce plan vélo, parce qu'ils vont créer un forfait mobilité qui va être rendu obligatoire pour tous les agents de la fonction publique, y compris les fonctions publiques territoriales. Donc ces agents du service public vont être indemnisés à hauteur de 200 euros par an s'ils se rendent sur leur lieu de travail à vélo. Donc c'est aussi l'État qui montre l'exemple. Et je pense que le message qui est envoyé aussi là-dedans, c'est que le vélo, c'est quelque chose de sérieux. C'est plus un jouet rigolo. C'est vrai que c'est ce qu'a dit aussi le ministre de la Transition écologique à la radio, François de Rugy. Et ça, c'est un changement un peu d'époque. Je pense que là, par contre, on a encore vraiment un travail important à faire. C'est qu'on puisse prendre cette solution au sérieux, y compris dans des territoires moins denses que les métropoles.
Oui, c'est ça,
parce que je disais tout à l'heure que la pratique du vélo est encore en baisse en France. En fait, elle est en train de revenir fortement dans les grandes villes et métropoles qui mettent en place des politiques de mobilité, parce qu'évidemment la congestion, la pollution font que c'est intolérable. Mais dans d'autres territoires où l'étalement urbain se prolonge, les services publics commencent à s'éloigner. Les commerces, c'est les grandes surfaces de périphérie et plus les commerces de proximité, ben le vélo continue de perdre du terrain. Alors qu'au contraire, il peut encore être une solution et permettre de restructurer un territoire rural qui souffre. Aujourd'hui, la question des villes qui meurent, c'est un énorme sujet et le vélo est une partie de la solution pour recréer de la proximité.
Julien.
Oui, j'amplifierai encore ce que dit Charles Magnin, c'est... ces villes ces villes qui sont dans la tranche 25 000, 30 000, 50 000 habitants sont aujourd'hui un peu les parents pauvres d'un urbanisme de compacité urbaine, hein, de retour finalement vers les centres-villes, etc. Parce que ce sont souvent des bassins de vie ou des bassins économiques qui souffrent. Et donc les moyens des collectivités sont aussi réduits et le vélo ne paraît pas une priorité. Alors le message que nous on leur porte, c'est de dire au contraire, avec finalement peu d'investissement, il s'agit pas de se dire on est pauvre, il faut faire des choses de pauvre, mais avec peu d'investissement et une intelligence territoriale de ce plan vélo, on peut finalement recoudre toute une série de liens dans un territoire où ces relations sociales comme économiques, comme commerciales se sont détendues. Donc le vélo est véritablement un vecteur de réflexion, de revitalisation de ces villes moyennes. Prenez un exemple que je connais bien, qui est la ville d'Auxerre. Véloptimo est né d'un retour en train d'Auxerre où on n'avait pas réussi à faire passer le moindre message sur le vélo. Auxerre, c'est une ville qui regroupe 50 000 habitants dans un périmètre de 3,5 km. C'est-à-dire exactement le périmètre où le vélo est le plus pertinent, le plus performant. Il n'y a pas plus performant, c'est des distances trop grandes pour la marche à pied et c'est des distances trop courtes ou absurdes pour sortir sa voiture et prendre sa voiture. Donc toutes ces villes moyennes qui font 3 à 4 km de périmètre, si vous voulez, et qui regroupent 90% de leur population dans ce périmètre, ont vraiment intérêt... c'est un intérêt rationnel à développer le vélo. Le vélo est pas uniquement en substitution non plus des autres modes de déplacement, et ça je voulais le rajouter par rapport à la question des espaces périurbains. Le vélo est aussi un outil d'intermodalité. La question c'est pas de dire il faut que les gens cessent complètement d'utiliser leur voiture et les transports en commun, c'est de dire dans quelle mesure le vélo est aussi un facteur de développement de l'ensemble des mobilités, des besoins de mobilité, parce que je vais pouvoir faire un segment de mon trajet quotidien à vélo. Je vais pouvoir rejoindre une gare, je vais pouvoir rejoindre une gare routière, je vais pouvoir, etc. Et donc là, on rentre dans une autre dimension de ces politiques qui sont de développer les services du vélo, les services que le vélo peut rendre, et notamment le vélo en libre-service ne doit pas être non plus l'apanage des grandes villes et des métropoles. Mais on pourra évoquer un certain nombre de ces services qui vont permettre la reprise du vélo dans ces villes moyennes.
J'avais une question sur la technologie. Il y a une recrudescence, on le voit dans tous les magasins spécialisés ou même généralistes de sport, sur le vélo électrique. Est-ce que ça a été un déclencheur? Moi, j'ai l'impression d'en voir apparaître autour de moi. Est-ce que ça reprend les gens qui faisaient du vélo à l'heure actuelle et qui les fait régresser, entre guillemets, en passant à l'électrique, ou ça ouvre vraiment vers un nouveau public pour le vélo?
vélo à assistance électrique. Il faut insister sur l'assistance. Il faut pédaler quand même, et ça reste quelque chose qui est quand même bon pour votre santé, même si évidemment c'est pas le même effort que le vélo. C'est beaucoup du nouveau public, et d'ailleurs le vélo à assistance électrique est plus encore que le vélo ordinaire un outil du report modal, c'est-à-dire du changement des modes de déplacement de la voiture ou du de roues motorisées vers le vélo. C'est-à-dire que les usagers des vélos à assistance électrique sont plus souvent des anciens automobilistes ou motards
que oui, sur parce le que vélo. C'est ça qu'on recherche, quoi, finalement. Voilà. C'est essayer de qu'un automobiliste voilà. utilise moins sa voiture et plus un
donc
vélo.
Tout à fait. Et donc c'est quand même intéressant. Ça, la clientèle de ce type de vélo, c'est quand même plus les seniors. Donc c'est aussi une population que c'est intéressant de garder dans une logique de mobilité active, parce que pour leur santé c'est vraiment excellent, ça leur permet aussi de garder de l'autonomie très longtemps. Donc c'est plutôt un outil intéressant. Après je pense que pour une part c'est aussi un outil qui lève des freins psychologiques, c'est-à-dire on imagine toujours que le vélo c'est du sport, c'est hyper difficile, qu'on est en sueur tout le temps, que les côtes c'est infranchissable. En fait on sous-estime souvent ses capacités là-dessus, et le vélo assistance électrique c'est un petit peu voilà
une béquille,
une béquille en quelque sorte. Mais disons que dans la mesure où si ça aide à lever les freins, moi je crois plutôt qu'il y a des gens qui vont finir par se rendre compte avec le vélo assistance électrique que finalement ils vont le donner à mamie et ils vont retourner vers un vélo ordinaire après s'être rendu compte que finalement c'est facile.
Ouais, peut-être sur les questions de santé, je ne sais pas si tu veux compléter, Julien.
Bah, il est sûr que, en tout cas, là aussi, il y a un enjeu de santé publique qui apparaît de plus en plus avec la sédentarité des urbains et des périurbains. Mmh. D'ailleurs, peut-être les périurbains sont encore plus sédentaires que les Parisiens qui marchent beaucoup, par exemple. Les maladies cardiovasculaires, l'obésité, etc., sont quand même des difficultés de santé qui sont en train de prendre de l'essor. Et là j'inclurais la marche à pied hein, qui est à la fois un vecteur de déplacement le premier d'entre eux. Sans marche à pied il n'y a aucun autre déplacement possible hein, parce qu'il faut quand même sortir de son lit et sortir de chez soi. Donc sans marche à pied je ne peux même pas rejoindre ma voiture. Donc la mobilité c'est d'abord la marche à pied hein. Nous sommes des homo dromiens,
Des
bipèdes et des homo dromiens avant d'être des homo sapiens. Le vélo est évidemment une sorte de prolongation qui demande un petit peu plus d'apprentissage. Et on disait tout à l'heure que le plan vélo, fort opportunément, comme beaucoup de pays du Nord, notamment depuis des dizaines d'années, ont des apprentissages à l'école. Je pense qu'il y a aussi, d'ailleurs il existe en France, à Montreuil et ailleurs, des associations qui remettent le pied sur la pédale. Un certain nombre de gens qui ont un petit peu perdu l'habitude de faire du vélo ou qui n'ont jamais appris à faire du vélo. Donc il va falloir aussi finalement que ces écoles du vélo se développent aussi pour les adultes. Il faut à la fois apprendre à rouler en ville, et le vélo assistance électrique à mon avis pose aussi cet enjeu là c'est-à-dire que c'est bien de pédaler pour sa santé. La santé c'est aussi assurer sa sécurité et savoir effectivement rouler à la bonne allure, etc. Donc oui, il y a des enjeux de santé qui à mon avis sont majeurs dans la motivation, et la motivation elle vient de la politique publique, mais elle vient aussi et surtout des gens hein, que ce soit sur leur alimentation, que ce soit sur l'air qu'ils respirent, que ce soit sur une activité physique que l'on peut faire sans s'en rendre compte hein. C'est ça l'intérêt finalement de faire du vélo au quotidien. Il s'agit pas de réaliser des performances, il s'agit d'encourager une pratique qui va du quart d'heure à la demi-heure ou aux trois quarts d'heure hein. Et on est sur des à la fois de la performance de déplacement et en même temps de l'efficacité sur l'impact santé.
Alors deux chiffres pour compléter, enfin deux faits qui viennent de la Fédération française de cardiologie. Donc, qui dit que effectivement la sédentarité tue plus que le tabac en France aujourd'hui. Et le deuxième chiffre, c'est que les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire en 40 ans. Donc ça, je pense que c'est aussi des choses qui effectivement sont marquantes. Charles.
Oui, je pense que ce que vous évoquez, c'est aussi le fait qu'on voit très bien qu'une politique en faveur du vélo, c'est une politique aussi de santé publique et qui en elle-même se finance, quoi. On est très mauvais en prévention. En France, on fait du curatif et du coup, ça coûte très cher. Mais faire une politique de prévention par l'activité et le vélo en est vraiment une qu'on peut intégrer facilement dans son quotidien. C'est aussi faire des économies énormes sur la santé des Français. Moi, ce que je voulais juste conclure sur ce plan vélo, c'est de dire, je pense que on est sur vraiment une un pas en avant historique. Maintenant, on va pas se mentir, 350 millions d'euros, il faut juste voir que c'est à peu près la moitié du plan vélo de la seule ville de Paris. C'est quelque chose qui reste une petite goutte d'eau dans l'océan des besoins. Mais voilà, faut aussi se rendre compte qu'on est sur une mobilisation citoyenne d'une association qui avait très peu de moyens, notre fédération. Et donc moi, ce que je voulais voilà saluer, c'est que quand les citoyens se bougent, on peut obtenir des belles choses.
Eh bien, très bien. On va clore cette partie sur... Sur cette conclusion, on va donc passer à un morceau qui est Drive My Car des Beatles. Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. Beep, 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 yeah!
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par l'équipe de la 4e dimension, consacrée au plan vélo, une alternative au tout voiture. Donc on serre les cale-pieds et c'est reparti pour la 3e partie où on va parler un peu des solutions, des alternatives et éventuellement s'inspirer de ce qui se passe en Europe.
Première question du coup, qu'est-ce se passe-t-il en Europe?
Bon, en Europe, il se passe beaucoup de choses, puisqu'on disait que, c'est Charles qui le disait tout à l'heure, la France se classe quasiment dans les derniers pays de l'Union pour la part modale du vélo. 25 sur 28, donc c'est pas très glorieux, ce qui veut dire que les autres font plus. Les Italiens, par exemple, sont une part modale plus importante que nous, les transalpins. Donc, il y a vraiment à s'interroger sur la raison de cet abandon du vélo, parce qu'il faut se rappeler aussi que historiquement en France on a fait beaucoup de vélo dans l'entre-deux-guerres, on a fait beaucoup de vélo.
On a une idée de la part modale justement maximale atteinte par le vélo.
Le vélo était le mode de déplacement majoritaire dans l'entre-deux-guerres puisqu'on roulait très peu en voiture, de gens avaient les moyens de s'acheter une voiture, la production était minimale. Aujourd'hui on vend aujourd'hui en France 2 millions de voitures et 3 millions de vélos, c'est quand même assez intéressant. Donc on se rend compte qu'il y a finalement, c'est un mode de déplacement qui est équivalent dans 80% de vos besoins de déplacement. Les Français font l'effort d'acheter des vélos, mais aujourd'hui, ils achètent des vélos pour leurs loisirs, pour le week-end et pour des usages occasionnels. Donc comment on peut convertir ce rapport qu'on a, que les Français ont au vélo comme un mode de loisir, comme quelque chose de sportif, etc., dans un environnement urbain et dans un mode de déplacement quotidien. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'il faut consacrer effectivement ces 20 dernières minutes de l'émission à essayer d'identifier et de rechercher quelles sont les raisons profondes et surtout les solutions, les incitations les meilleures, les astuces, les ruses que l'on va pouvoir employer, nous les acteurs du vélo, pour convertir finalement cette velléité, parce que la velléité elle est là, la volonté elle est là, les Français l'ont dit dans cette enquête, de faire davantage de vélo à toutes occasions.
Et les objectifs, c'est de passer à 9% de part modale. Donc on est à
2,5 très modeste,
9 en moyenne.
Voilà, c'est très modeste par rapport aux grandes villes hollandaises, par rapport à Copenhague, où on est à 35% de part modale et où la voiture fait 20% de part modale.
Voilà. Du coup, je pense que on en a déjà évoqué certains des freins. Donc l'étalement urbain, c'est véritablement dans les zones rurales, les zones peu denses, la question principale. Comment recréer de la proximité? Parce que tout a été organisé autour de l'idée qu'on pouvait installer un pôle emploi ou une maternité à 15 minutes, sous-entendu en voiture. Et c'est tout ça qui a créé cette logique d'étalement urbain. C'est la réflexion du territoire autour de la logique qu'on peut se déplacer de manière illimitée, gratuite ou presque, avec l'automobile. Donc là, le vélo, c'est aussi un allié de la, qui a besoin de la proximité et qui participe de la proximité. Donc c'est en cette logique aussi que si ça devient plus cher et moins facile de se déplacer en voiture, on va recréer de la proximité parce qu'on sera obligé de rapprocher des services publics, de desservir les territoires avec des trains, etc. Ça, c'est un gros sujet pour le périurbain. Mais je pense qu'on a aussi un low hanging fruit, comme disent les Anglais, des cibles faciles. C'est-à-dire que dans les villes où la densité densité est énorme, comme tu disais tout à l'heure pour Auxerre. Le potentiel, il est énorme. Les gens qui sont à moins de 5 kilomètres de la plupart de leurs lieux d'intérêt de vie, travail, les enfants, les activités, etc., ils peuvent faire l'essentiel de leur déplacement à vélo.
Alors que leur part modale aujourd'hui, enfin, la part modale de la voiture, elle est encore au-delà de 60%, je crois, pour les déplacements de moins de 3 ou 5 kilomètres.
Alors c'est très important, ouais. On considère qu'il y a presque un déplacement sur deux dans la France entière qui font moins d'un kilomètre qui sont faits en voiture.
D'accord.
Donc moins d'un kilomètre. Donc la moitié sont faits en voiture dans les déplacements de moins d'un kilomètre. Donc c'est évidemment des choses qui peuvent se faire. Même à pied c'est un quart d'heure et en vélo c'est 5 minutes. Pourquoi? Ben les Américains ont fait des études assez intéressantes. Il y en a une qui s'appelle l'étude des 4 types de cyclistes. Et en fait, ils ont montré que dans la plupart des populations urbaines, il y a 1% des gens qui sont dans une situation où ils n'ont pas peur et qui feront du vélo dans n'importe quelle situation, quelle que soit la ville. Il y a 3% des gens, c'est des enthousiastes. Ceux-là, dès qu'il y a un début de politique cyclable, quelques pistes cyclables, un peu de peinture, ils vont se mettre au vélo pour des raisons, comme je disais pour ma part, économiques, environnementales, santé, etc. Il y a une motivation.
Rapidité.
Il y a une motivation intrinsèque des personnes. Il y a un tiers des gens, 30%, c'est jamais. Jamais ils se déplaceront à vélo pour X raisons. Et puis il y a surtout 60% des gens qui disent qu'ils sont prêts à le faire, qui ont envie de le faire, mais qui ont peur. Et ça, c'est vraiment le sujet principal. Il faut réussir à organiser la mobilité à vélo de manière à ce que ce soit simple et rassurant d'aller d'un point A à un point B. Aujourd'hui, à Paris, pour prendre cet exemple, il n'y a pas de réseau cyclable. Il y a quelques pistes cyclables éparses qui s'arrêtent, mais on ne demande pas aujourd'hui aux gens de prendre le métro, de descendre du métro, de marcher 500 mètres pour reprendre la ligne. Ça n'existe pas. Et ben aujourd'hui, à vélo, c'est ce qu'on vit. On nous propose une piste cyclable pendant 300 mètres, elle s'arrête, et puis peut-être qu'ailleurs, elle va reprendre. Mais ça, pour le commun des mortels, ça n'offre pas une évidence pour le vélo. Le vélo n'est pas une évidence simple, agréable. On est en permanence en cohabitation avec des véhicules d'une tonne qui vont vite et qui polluent.
Julien, je te laisse rebondir là-dessus, et après j'enchaînerai sur les politiques à Paris. Est-ce que la place de la voiture est un problème? Dans ma question, il y a la réponse. Et d'autre part, est-ce que les politiques de piétonnisation sont une bonne solution à proposer?
Alors, dans les 60% qu'évoquait Charles, qui sont donc des personnes susceptibles d'emprunter le vélo, mais qui aujourd'hui sont bloquées par un certain nombre de freins psychologiques relativement rationnels, il y a tout cet effort qui doit être porté sur les continuités cyclables, sur la sécurisation des parcours, etc.
C'est l'essentiel.
C'est l'essentiel. Ce qui se passe aujourd'hui, aussi du côté du numérique, du digital, des réseaux sociaux, etc., c'est finalement une communication plus rapide d'un certain nombre de styles de vie urbains. En particulier le fait que au sein de sa communauté, de ses pairs, on communique beaucoup plus aisément, plus rapidement, plus facilement. On se challenge aussi. Il y a un certain nombre d'applications qui vous permettent de vous mesurer amicalement avec vos meilleurs amis, avec vos collègues de bureau, etc. Et le vélo est en train d'entrer dans ce type de communication sociale un petit peu et
de gaming
un petit peu, absolument, que nous on commence à intégrer dans nos réflexions d'urbanisme et d'urbanisme agile, hein. Maintenant on appelle un petit peu de ces pratiques d'aménagement provisoire qui visent finalement à favoriser la pratique, à tester, à expérimenter. C'est de nouvelles manières de faire l'urbanisme. On a parlé beaucoup des besoins d'infrastructures. Moi, j'ai passé 15 ans, effectivement, à faire des plans à 10, 15 ans, 20 ans de transformation des villes. Aujourd'hui, j'ai changé de posture et je travaille sur urbanisme et services avec l'idée qu'un urbanisme agile permet d'expérimenter un certain nombre de choses. Donc l'idée, par exemple, qu'un quartier apaisé, qu'un quartier à zone 30, qui aujourd'hui ne l'est pas parce qu'il y a X% des véhicules, des conducteurs de véhicules qui roulent trop vite dans ces zones 30, qui rendent du coup la sécurité, le passage avec le contresens cyclable dangereux. Il faut sur des quartiers apaisés qui ne sont pas encore suffisamment sécurisés, essayer de réaliser des expérimentations d'aménagement temporaire qui vont nous permettre de mesurer ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on a un grand défaut, un grand déficit de connaissances de comptage également. Hein. Il faut savoir que à Copenhague, il y a des dizaines de personnes qui sont embauchées en travail saisonnier ou qui sont des salariés du service de déplacement de la ville de Copenhague qui comptent chaque année, chaque mois, les déplacements de cyclistes.
Oui, parce que les pistes cyclables peuvent paraître vides, mais en fait, c'est que le cycliste, il est pas dans les, il y a pas de bouchon de cycliste.
Il y a pas de bouchon.
Aujourd'hui, il y en a pas à Paris, mais.
Donc, en tout cas, on a vraiment un besoin de mieux connaître les pratiques et de voir comment elles évoluent. On a des enquêtes déplacements qui aujourd'hui et des systèmes de comptage qui sont très insuffisants pour que les politiques publiques puissent s'adapter rapidement, finalement, à l'augmentation des pratiques. Parce qu'on voit bien qu'à Paris, la pratique change. On a vu apparaître, moi j'ai passé un an à Berlin, je suis revenu à Paris, j'ai vu des vélos cargo. Je n'en voyais pas il y a un an. Les vélos cargo, c'est 40 cm plus large.
Charles veut
petit rebondissement sur les comptages, c'est intéressant. Il y a 3300 boucles de comptage automatique pour les voitures à Paris. Il y en a 10 pour les vélos. Donc en fait, les ingénieurs qui font les projets de voirie ne savent pas en fait quels sont les flux de cyclistes. Donc ça, c'est un sujet, la data sur les vélos. C'est intéressant aussi de savoir que il y a un petit dicton sur l'urbanisme, c'est que les modes de transport efficaces, on ne les voit pas parce qu'ils sont pas dans les embouteillages en fait. Prenez une ligne de chemin de fer, elle est vide. Pourquoi on l'a construit en fait? Il y a pas de train. Ben en fait, si, il y a des trains, simplement ils sont très efficaces, ils sont jamais bloqués. Alors que les voitures, on les voit, elles font des embouteillages. Donc les modes de transport efficaces, on les voit pas. Pourquoi vous y avez pas de vélo sur les pistes cyclables? Ben c'est souvent parce qu'on est déjà arrivé en fait, tout simplement. Et je voulais juste dire par rapport aux zones 30, parce que je pense que ça c'est un point important. On parle des pistes cyclables, on va évidemment pas mettre des pistes cyclables sur toutes les rues de toutes les villes. Loin de là, il y a des quartiers qui doivent pas avoir de pistes cyclables, les rues sont trop étroites, elles sont pas faites pour ça. Par contre, on a en France eu cette idée que la zone 30, c'est-à-dire le fait de mettre un panneau, allait faire l'apaisement. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et notamment parce que le CEREMA, l'organisme technique de la sécurité, le dit, mais ça n'a pas été suffisamment entendu. Il y a deux axes pour l'apaisement. La vitesse en est un seul, et on oublie complètement l'autre, qui est l'intensité du trafic. Aujourd'hui, si vous avez une rue qui est à 30, mais qui a 10 000 véhicules jour qui passent dessus, c'est un enfer à vélo. Qu'est-ce qui se passe aux Pays-Bas? C'est que dans les petites rues de quartier, en fait, il y a des voitures, il y en a très peu. Et la vitesse est finalement qu'un paramètre secondaire. Et ça, c'est ce qui est perdu de vue, parce que c'est beaucoup trop simple politiquement de mettre un panneau zone 30 que d'organiser le plan de circulation de la ville pour assumer qu'il y a des axes de transit, des tuyaux et des axes de desserte dans lesquels on peut aller en voiture mais pas traverser. La ville de Lille est la seule à ma connaissance en France qui a revu son plan de circulation, et je dirais que pour les municipales à Paris, pour moi c'est un enjeu clé pour la stratégie de mobilité à Paris. Il faut revoir le plan de circulation.
Ce que tu es en train de dire, et c'est bien ça, c'est qu'il y a beaucoup de politiques pour le vélo qui sont du bidouillage, où on empiète sur la partie voiture, mais c'est la voiture qui est prédominante et on met des palliatifs sur le côté, et qui a une vision inverse à mettre en place, où on donne des voies pour le vélo et des voies pour la voiture.
Voilà. Alors il faut raisonner en axes, en hiérarchisation de la voirie. Il y a des axes de transit, c'est des tuyaux, et c'est des axes de transit qui doivent être pour la voiture et pour le vélo. Donc comme il y a des voitures et des vélos, et que les gens n'aiment pas être en mixité voiture-vélo, il faut des pistes cyclables pour être bien séparés. Et pas juste de la peinture, mais quelque chose de physiquement séparé. Et puis il y a des axes de desserte, c'est imaginez votre rue de quartier hein, où il y a des commerces, des enfants, etc. La vision hollandaise de ça, c'est que on peut y jouer dans la rue, et donc on a enlevé beaucoup de trafic de telle manière qu'on puisse y circuler en vélo en toute sécurité.
Alors juste pour finir l'émission, là on a encore 2 minutes. Un petit mot sur du coup qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de mobilisation citoyenne et associative. Peut-être Julien un mot, je sais pas, sur la Vélorution ou ce genre de choses.
Moi j'ai assisté avec grand bonheur, parce que j'ai pu y emmener mon fils de 8 ans à Berlin à la Critical Mass, qui est un regroupement de cyclistes tous les 3e vendredi du mois, et il y en a également un dimanche, qui réunit plusieurs milliers de cyclistes qui prennent possession véritablement du centre de Berlin. On fait une grande boucle de 2 heures à 2 heures et demie de vélo dans Berlin. Je sais que ça existe un petit peu à Paris, mais ça n'a pas l'ampleur que ça a à Berlin.
Alors c'est quand, juste pour nos...
Alors je crois que c'est le samedi en milieu de journée que le rendez-vous est fixé à Bastille. Mais on trouve facilement sur Internet, mais force est de constater que c'est pas un mode d'action aujourd'hui qui est suffisamment emprunté. Moi je pense qu'il a une certaine efficacité parce qu'il donne une visibilité à la question et il constitue un plaidoyer en acte.
Ouais. Charles.
Ouais, nous on a plutôt une stratégie d'insiders, c'est-à-dire qu'on pense que le plus efficace c'est pas de manifester dans la rue. J'ai l'impression que ça a plutôt démontré sa relative inefficacité. Alors c'est très sympa, mais voilà, moi je pense que un travail beaucoup plus assumé de lobbying, on va dire le gros mot, c'est payant. Il faut faire de la politique. Là récemment, nous avons gagné une bataille puisqu'on a empêché la suppression de la piste cyclable du boulevard de Belleville par une stratégie efficace de lobbying dans le 20e arrondissement.
Donc, en message final, faites du vélo.
Voilà.
Donc, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la réécouter sur le site web de la mode d'emploi, mode-d-emploi.net. Le prochain numéro de mode d'emploi animé par l'équipe de la 4e dimension, ce sera le vendredi 28 décembre et ce sera sur les énergies citoyennes, énergies renouvelables. Donc on voulait remercier nos invités, donc Julien Langer et puis Charles Maguin. Donc merci beaucoup, bonne
merci à
soirée,
vous.
Bon week-end,
merci,
faites du vélo et à bientôt.
Merci à tous.